VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 29 novembre 2022, Coupe du Monde de football. Le Sénégal, première équipe africaine qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Diamba défait l'Équateur 2-1. Au Tchad, les avocats dénoncent le procès de plus de 400 personnes qui se tiennent à la prison de Korotoro en plein désert.
Ils ont été arrêtés et déportés sans aucun respect de règles.
Gozo Tondide, avocat au barreau de N'Djamena. Au Mali, les magistrats décrètent une grève de 5 jours. La justice américaine a inculpé 3 citoyens américains d'origine camerounaise, accusés d'avoir collecté des fonds pour les séparatistes. Visite d'État du président français aux États-Unis, Emmanuel Macron, a quitté Paris ce mardi. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Sénégal et les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 en battant respectivement l'Équateur 2-1 et le Qatar 2-0 ce mardi à Doha lors de la troisième et dernière journée du premier tour dans le groupe A. C'était un match de dénouement dans le groupe A, Eric.
Et oui, le Sénégal de retour dans le top mondial. C'est le deuxième ticket de l'histoire des Lions de la Teranga, match à élimination directe. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, devait absolument gagner pour se qualifier et s'est imposé. Un soulagement qu'ils doivent en grande partie à leur capitaine Koulibaly, auteur de son premier but international pour remettre le Sénégal devant à la 70e minute, alors que l'Équateur, enfin sorti de sa réserve, venait d'égaliser par Caicedo à la 67e minute. Abdourahmane Dia est notre envoyé spécial à Dakar. Il a recueilli quelques réactions des fans sénégalais.
Nous sommes très contents. Nous avons gagné quoi? Nous avons gagné contre l'Équateur. Dieu merci. Nous allons jouer les huitièmes de finale. Avec n'importe quelle équipe, le Sénégal, le Lyon, peuvent assurer quoi, le quart de finale, Inch'Allah.
Nous sommes vraiment contents avec la victoire. Les joueurs là, ils aiment tellement jouer. Vraiment, on est vraiment contents. Mashallah. Oui.
Alhamdulillah, c'était dur au début, mais nous remercions le bon Dieu. Avec la motivation de l'équipe et l'hommage à Pape Bouba Diop, c'est juste une question de volonté. Allons-y pour la suite. 2022, c'est notre année. Merci beaucoup.
Abdou, vous m'entendez?
Oui, c'est absolument tout ce qui se passe ici à Dakar. Je viens de quitter d'une fan zone non loin d'ici. Et en fait, après le match, c'était l'explosion de joie. Et après des défilés spontanés à travers les rues, c'était fou. Et ça continue vraiment. Et ce sera une chaude nuit ici à Dakar. Et beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, en fait, on pensait immédiatement à Pape Bouba Diop, le premier buteur de l'équipe du Sénégal en Coupe du Monde en 2002 face à la France. En fait, cela fait exactement 2 ans qu'il est décédé et ce match était dédié en quelque sorte à Pape Bouba, mais également à Sadio Mané. On peut beaucoup penser à ces deux absents qui ne sont plus là et qui auraient bien aimé être là pour fêter cette victoire et la qualification du Sénégal au second tour.
Il y a une auditrice qui est amatrice de football, c'est Allô? Eva Ndiaye. Eva Ndiaye, vous êtes là, vous nous suivez?
Oui, je vous suis, mais vous entendez après.
Votre sentiment?
Ouf, sentiment de joie. Je ne peux même pas exprimer ma joie parce que, vous savez, le Sénégal est un pays de foot et tout le monde attendait cette victoire. C'est pourquoi je félicite l'équipe du Sénégal qui a tout donné. Ils ont fait un grand match, vraiment. Je les félicite et je les souhaite aussi bonne chance pour les prochains, comment on appelle,
Merci Eva. Je suis également en ligne avec Tarsis Haririmana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du football. Il est à Ottawa au Canada. Tarsis, bonsoir.
Oui, c'est avec joie, Eric, qu'on salue la victoire du Sénégal. Une courageuse équipe qui produit un bon football face à l'équipe de l'Équateur, vous l'avez dit, 2-1. Hein. Mais c'est encouragement aussi pour Alioune Cissé, entraîneur local qui a 7 ans à la tête de cette sélection, qui joue sans Sadio Mané, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que la championne d'Afrique souhaite maintenant une percée dans cette Coupe du Monde, pourquoi pas 20 ans après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde.
Le Sénégal a souffert en seconde partie, mais les Lions ont été libérés ou délivrés par le but de leur capitaine Kalidou Koulibaly. Le Sénégal va disputer sa deuxième huitième de finale en Coupe du Monde après 2002, Tarsis, mais sans Ganagay qui sera suspendu.
Oui. Et surtout, on pensera encore une fois au meilleur, le deuxième meilleur joueur du monde, évidemment, qui est absent. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime au Sénégal, ce que j'aime malgré les critiques qu'on a lancées à Aliou Cissé, faut voir les réseaux sociaux. C'est d'abord la confiance à l'entraîneur et je pense que c'est l'expérience qui va compter et surtout un bloc décisif qui travaille bien. On sent la collectivité, on sent le courage au sein de cette équipe. Et puis le Lyon est aussi allé très loin dans cette Coupe du Monde. Pourquoi pas sans même les meilleurs joueurs du monde.
Au Mondial 2018 en Russie, les Sénégalais étaient dans la même situation avec leur destin en main. Au troisième match contre une équipe sud-américaine, la Colombie, les États-Unis troisième, croisent l'Iran deuxième du groupe B. L'affiche ne s'annonce pas comme un sommet footballistique, Jean-Roger, mais cette rencontre est un moment fort du football mondial de 2002 au Qatar, avec pour enjeu bien plus qu'une qualification en huitième de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination. De son côté, l'Angleterre vise la première place du groupe avec une victoire dans le derby face au Pays de Galles, dernier, mais qui peut se qualifier s'il gagne. Et tout se joue pendant les 90 minutes en cours. Jean Rocher.
Mondial 2002, couverture signée Eric Manirakiza. La suite de l'actualité au Tchad, le procès de plus de 400 manifestants arrêtés lors des manifestations violemment réprimées du 20 octobre débute ce mardi à la prison de Korotoro. Pour manifester leur mécontentement, les avocats ont décidé d'interrompre leur travail pendant ce procès collectif. Les détails avec Nani Talani.
Quelques 401 détenus seront jugés jusqu'au 4 décembre à Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert, à plus de 600 km au nord-est de N'Djamena. Selon les procureurs, les accusés doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont la participation à un rassemblement non autorisé, destruction de biens, incendie criminel et trouble à l'ordre public. D'après le procureur général, 621 personnes ont été arrêtées et transférées à Korotoro. Il précise que des enquêtes sont en cours pour quelques 220 personnes, dont 83 mineurs, arrêtés lors de l'appel à manifester pacifiquement des groupes d'opposition le 20 octobre. Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait accusé les manifestants d'insurrection et de tentative de coup d'État. Dans son communiqué, le barreau du Tchad qualifie ce procès de parodie de justice et affirme que les détenus ont été enlevés et déportés à Korotoro en l'absence de tout avocat. Le procès dans cette prison isolée viole les règles de procédure, selon l'association des avocats tchadiens, qui a décidé de cesser toute activité pendant la durée du procès.
États-Unis, Iran, nous sommes à la 38e minute. Les États-Unis viennent d'inscrire leur premier but, 1-0 donc, après 38 minutes de jeu. On revient à l'actualité du 29 novembre au 5 décembre. Les deux syndicats de la magistrature malienne sont en grève. Les magistrats manifestent pour le retrait de la loi modifiant les règles de fonctionnement de la Cour suprême. Mohamed Danyoko nous fait le point depuis Bamako.
Selon le syndicat libre de la magistrature et le syndicat autonome de la magistrature, la loi incriminée viol, une autre loi portant statut de la magistrature et porte atteinte à l'indépendance de la justice et au caractère impersonnel de toute loi. Selon les magistrats, cette loi vise à modifier l'âge de départ à la retraite des membres de la Cour suprême, alors que, selon le statut de la magistrature, l'âge pour partir à la retraite est à 65 ans. D'après un syndicaliste, il s'agit d'obliger les membres de la Cour suprême à rester en fonction au-delà, même s'ils veulent faire valoir leur droit à la retraite. Pour les syndicats, il faut plutôt procéder à un recrutement pour étoffer ce corps qui compte 513 magistrats. Si aucune solution n'est trouvée, les deux syndicats prévoient de boycotter les activités organisées par la Cour suprême, y compris la rentrée judiciaire initialement prévue ce 2 décembre. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire samedi, a rencontré ce mardi à Abidjan le ministre de la Réconciliation nationale pour parler de paix. Cette rencontre est républicaine. Je suis venu porter un message pour le président de la République. Je suis venu lui dire merci, a déclaré à la presse M. Blé Goudé. Ici aux États-Unis, trois Américains d'origine camerounaise ont été arrêtés et accusés d'avoir collecté des fonds pour les combattants séparatistes au Cameroun, indique le ministère de la Justice américain dans un communiqué. Nathalie Barge.
Les inculpés sont Claude Shi du Missouri, Francis Chenier du Minnesota et Lanestor Langmi de l'État de New York. Ils auraient collecté des fonds pour des armes et explosifs selon le communiqué du ministère de la Justice américain. En plus de quelques 350 000 dollars que les accusés ont collectés grâce à des dons volontaires, l'acte d'accusation allègue que Shi, Cheni et Langmi ont conspiré avec d'autres personnes pour kidnapper des civils au Cameroun, indique le communiqué. Dans certains cas, des citoyens américains ont été extorqués pour le paiement de rançons afin d'obtenir la libération de leurs proches kidnappés au Cameroun. L'argent a été transféré aux séparatistes pour financer leurs opérations. Les trois accusés occupaient des postes de direction dans une organisation qui soutenait le groupe des forces de restauration ambazonienne et d'autres combattants séparatistes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Ils collectaient des fonds pour eux depuis 2018, précise le communiqué du ministère de la Justice américain.
Le président français Emmanuel Macron est en route pour Washington ce mardi pour sa deuxième visite d'État, dont il espère profiter pour pousser son plaidoyer diplomatique sur la guerre en Ukraine et aborder ce que Paris qualifie de protectionnisme américain. Jacques Aristide.
Le chef de l'État français aura droit ce jeudi à tous les honneurs d'une telle réception, avec coups de canon, dîner de gala et entretien avec son homologue américain Joe Biden dans le bureau ovale. Hier, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a décrit Emmanuel Macron comme dynamique, dont le pays, puissance nucléaire, est au centre de toutes les problématiques mondiales, que ce soit la guerre en Ukraine ou la montée en puissance de la Chine. Joe Biden a eu le sentiment que c'était réellement le pays le plus pertinent pour organiser la première visite d'État depuis son investiture, encore dit le conseiller Kirby. Pour Paris, c'est un honneur qui est fait à la France plutôt qu'à tout autre pays européen. Un sujet de friction toutefois, l'Inflation Reduction Act, qui prévoit de généreuses subventions pour les véhicules électriques, batteries et énergies renouvelables produits aux États-Unis. Nous ne resterons pas les bras croisés face à ce plan d'investissement jugé protectionniste, a déclaré la première ministre française Elisabeth Borne. Le voyage d'Emmanuel Macron débute ce mardi à Washington, puis le président français se rendra à la Nouvelle-Orléans.
Le principal organe de sécurité chinois a appelé ce mardi à une répression des forces hostiles après des manifestations contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté dans les grandes villes de Chine. La commission des affaires politiques et juridiques du Parti communiste au pouvoir qui supervise les forces de l'ordre dans le pays a affirmé qu'il était nécessaire de réprimer les activités d'infiltration et de sabotage des hostiles conformément à la loi selon le compte-rendu d'une réunion diffusée par l'agence d'État Chine Nouvelle. Et puis 10 hommes seront jugés à partir de demain mercredi pour leur rôle dans les attentats islamistes qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés en 2016 dans le métro à l'aéroport de Bruxelles. Ils seront jugés par un jury populaire et non une cour d'assises. Jean-Roger Billon, dans un instant nous revenons pour la suite de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'audience pour juger quelques 400 personnes arrêtées depuis le 20 octobre au Tchad a commencé aujourd'hui à la prison de haute sécurité de Korotoro, située en plein désert. Les avocats du Tchad ont décidé de boycotter ces audiences et de cesser toute activité durant cette période du procès de masse. Pour en parler, Idriss Fall joint N'Djamena, l'avocat Gozo Tourndidé.
Ces personnes qui doivent passer devant les juridictions à Korotoro aujourd'hui, c'est là, c'est suite à la marche qu'avait projeté l'action citoyenne Wakitama et les transformateurs. La marche avait été interdite parce que la demande qui avait été déposée au ministère de l'administration du territoire n'avait pas eu de suite favorable. Et c'est pour empêcher que cette marche, qu'effectivement, il y a eu des arrestations le 19 et le 20, il y a eu des marches sporadiques qui se sont déclenchées dans la ville d'N'Djamena. Et cela a donné lieu à des assassinats, des arrestations et des enlèvements. Et surtout ceux-là qui ont été enlevés et qui ont été gardés dans les lieux secrets dans la ville d'N'Djamena pendant quelques temps, qui ont été déportés donc au niveau de Korotoro, qui est une juridiction qui n'est pas dans le ressort ni du tribunal de grande instance d'N'Djamena, ni de la cour d'appel d'N'Djamena. Et le procureur et les membres du tribunal de grande instance qui, suite à un ordre d'émission qui a été signé par le ministre, c'était déporté là-bas il y a 2-3 semaines de cela pour les écouter sur le procès verbal. Et notre code de procédure pénale dit en ces articles 50-51 que tout prévenu lors de son audition doit se faire assister par son avocat. Et au cas où il n'y a pas un avocat, il doit se faire assister d'une personne de son choix. Et ces gens ont été écoutés dans des conditions qui ne leur permettaient pas de se faire assister ni par leur avocat, ni par une personne de leur choix. Ils ont été détenus de manière très longue, parce que la durée de garde à vie au Tchad, c'est 48 heures renouvelables une fois par monsieur le procureur, ce qui n'a pas été le cas.
C'est ça qui explique que vous, les avocats, vous boycottez toutes ces séances-là.
Justement parce que les avocats n'ont pas été associés à la procédure dès le départ. Non seulement la manière dont ces gens ont été enlevés, parce que ce n'est pas la police judiciaire qui a procédé à leur arrestation. Ils n'ont pas été écoutés en présence des avocats et ils ont été détenus, n'est-ce pas, de manière irrégulière. Alors, les avocats ont décidé de manière unanime de ne pas apporter leur caution donc à cette injustice flagrante qui se joue maintenant à travers leur jugement.
Ils risquent gros, non, si on les juge dans une prison sans la présence de leurs avocats.
Bon, mais tout est parti pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, risquer gros, parce que vous voyez que ceux qui ont été arrêtés, les uns l'ont été dans leur maison, dans leur concession, les autres sous leur lit et tout. Alors, rien n'est établi de manière formelle leur implication, n'est-ce pas, dans ce qu'on leur reprochait. Ils ont été arrêtés et déportés sans aucun respect des règles. Alors, tout ce qui a été fait laisse comprendre que même si les avocats venaient, c'est juste pour accompagner la justice, qui se révèle en réalité de l'acharnement contre ces gens-là.
C'était Gozo Tourndidé, avocat au barreau de N'Djamena au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les Nations Unies ont annoncé ce mois-ci que la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants et que plus de la moitié de la croissance démographique jusqu'en 2050 proviendrait de 8 pays, dont 5 sont en Afrique. Au cours de cette période, le Nigeria devrait doubler sa population pour atteindre 400 millions et devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. Les experts préviennent que sans une planification adéquate, une telle croissance ne serait pas atteignable. Le reportage de Timothy Obiezu, depuis Abuja, le récit est de Michel Joseph.
En 2020, Aïcha Ali et son mari ont décidé qu'elle prendrait une injection contraceptive après avoir eu 9 enfants. Selon elle, c'était à cause de contraintes financières.
Je suis une petite commerçante et mon mari est conducteur de moto. Nous voulons le meilleur pour nos enfants, mais nous ne gagnons pas assez. Parfois, de bons samaritains nous aident à payer les frais de scolarité des enfants et à acheter de la nourriture.
De nombreuses femmes nigérianes, surtout dans les zones rurales, dépassent la moyenne nationale d'environ 5 enfants par femme. Evelyn Isenyi a eu 8 enfants avant le décès de son mari en 2018. Aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle a du mal à s'occuper d'eux.
Même si mon mari était encore vivant, je ne voudrais pas avoir d'autres enfants à cause des difficultés. Les choses sont très difficiles pour moi.
En marquant le cap des 8 milliards d'habitants dans le monde, les responsables onusiens ont souligné que la croissance démographique est le résultat des progrès en santé publique qui ont permis de réduire les taux de mortalité. Erica Goldson est la représentante adjointe du FNUAP au Nigeria.
Il y a des avancées majeures qui se produisent, mais l'une des choses qui nous préoccupe, c'est que ces progrès ne sont pas reçus de la même manière partout. Il y a des citoyens qui sont privés d'accès aux soins de santé de base, à l'éducation de base. Leur qualité de vie globale est affectée de manière négative.
En février, le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé une initiative pour mieux contrôler les naissances et améliorer l'accès aux outils modernes de planification familiale. Les Nations Unies et les responsables nigérians sensibilisent les femmes des zones rurales à la planification familiale. Mais Mme Goldson estime que le Nigeria doit consacrer davantage de fonds au planning familial pour atteindre des objectifs plus tangibles.
Depuis cette année, nous avons eu un écart de 25 millions de dollars et cela était à cause des effets du COVID-19. Nous avons aussi le problème de la guerre en Ukraine et cela a affecté la contribution des donateurs, ce qui est très risqué pour le Nigeria.
Selon les responsables de la santé, le Nigeria doit investir 35 millions de dollars chaque année pour combler les lacunes en matière de planning familial, mais n'a prévu que 50 000 dollars à cet effet. Des membres de la société civile demandent aux autorités d'augmenter cette enveloppe avant que le budget ne soit approuvé par l'Assemblée nationale en décembre.
Lomé, la capitale togolaise, accueille l'édition 2022 de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Il s'agit d'une rencontre de deux jours qui réunit les leaders de l'industrie financière africaine des secteurs publics et privés pour des réflexions constructives autour de la relance économique du continent. On fait le point avec Amène Assignan, notre correspondante dans la capitale togolaise.
Près de 600 acteurs du secteur financier africain public et privé se retrouvent à Lomé avec comme objectif de définir de nouvelles stratégies pour booster les économies africaines. Un impératif pour le continent dont le potentiel de croissance est freiné par une mauvaise orientation des financements disponibles. Cette rencontre de haut niveau ouverte par le président togolais Faure Gnassingbé se présente sous un format de dialogue entre les gouvernements, les régulateurs et les leaders de l'industrie financière, à savoir les banques, les assurances, les opérateurs de mobile money, les fintech et autres. C'est une initiative de Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société financière international et l'Africa CO. Frédéric Maury, directeur général délégué à Jeune Afrique Media Group.
Un de nos objectifs, c'est de pouvoir produire à la fois des recommandations pour améliorer le financement des économies. Les économies africaines aujourd'hui, on va dire que jusqu'en 2015, elles se portaient très bien. Ensuite, en 2015, on a eu un choc des matières premières qui a quand même énormément ralenti la croissance africaine. On a eu une deuxième phase. On a eu le coup du Covid en 2020 qui a provoqué une année très difficile en 2020. 2021 était meilleur. On pensait que 2022 serait une bonne année et malheureusement, en raison du choc inflationniste énorme, qu'on connaît à travers le monde, mais aussi en Afrique. On a des économies qui vont avoir des taux de croissance trop faibles, entre 2 et 3%, ce qui est largement insuffisant. Et par exemple, le secteur financier, qui marchait très bien jusqu'en 2019 africain, aujourd'hui, il a ralenti, il a plus de mal à financer parce que les taux d'intérêt deviennent très élevés, l'inflation est très élevée, et donc le financement des économies ralentit beaucoup.
Les échanges portent entre autres sur l'intégration régionale, notamment la SLECAF, la zone de libre-échange continentale et l'inclusion financière qui constituent des enjeux importants du développement de l'industrie financière en Afrique. Comme le précise Gildas Nzouba, directeur général de Suno Assurance Vie de Côte d'Ivoire.
Il faut que l'ensemble des acteurs
qui sont partie prenante à cette industrie financière, banques, assurances, gestion d'actifs, etc., avec les institutions qui les accompagnent, régulateurs mais également gouvernements, puissent bénéficier d'une même plateforme, comprendre les enjeux qui sont communs et par là commencer à générer des synergies. Donc je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément qui a également été partagé concerne celui de la ZLECAF. Nous ne pouvons aller vers une ZLECAF efficace, efficiente même, que si l'ensemble des acteurs du monde financier sont également à même d'accompagner en fait cette transformation à la fois du commerce mais aussi de l'industrie.
Cette synergie d'action est saluée par les participants à ce sommet, que ce soit les grands groupes financiers ou encore la microfinance. La FISE a été lancée en 2021. Cette édition est la première organisée en présentiel. Des tables rondes, des panels, des sessions closes d'or, meubles assez de jours, de rencontres. Amena Sinon pour VOA Afrique, Lomé.
Dans Washington Forum cette semaine, la tension politique au Sénégal à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2024. Dans une émission enregistrée à Dakar, nous évoquons le débat politique tendu entre pouvoir et opposition dans un contexte de pré-campagne. L'opposant Ousmane Sonko a annoncé sa candidature, mais le président Macky Sall ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions. Quelle analyse faire de la tension politique au Sénégal? Comment parvenir à un apaisement du climat politique dans la perspective de la présidentielle de 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
À l'approche des fêtes de fin d'année, certains habitants de la capitale rwandaise, Kigali, craignent que la flambée des prix des produits de première nécessité ne les empêche de célébrer pleinement. De Kigali, le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Habituellement vers la fin de l'année, les grands axes routiers de la capitale rwandaise, Kigali, sont particulièrement décorés pour la fête de Noël et du Nouvel An. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les préparatifs ne s'accélèrent pas comme à l'accoutumée, et le commerce semble peu florissant. Les vendeurs déplorent la rareté des clients et attendent toujours l'ambiance de la fête.
Vraiment, je suis inquiète, on n'a pas de clients. Mais à l'approche des fêtes, nous avons importé assez de vêtements pour nos clients.
Ici, nous avons des cartes de Noël. Les gens peuvent se rassembler et jouer des cartes en échangeant sur l'année qui s'achève. Nous espérons que les clients viendront. Ils ont déjà commencé à venir.
Les prix sont partout en hausse. Quand il y a une inflation, les prix de tous les produits augmentent.
Les conséquences de la flambée exorbitante des prix sont également partagées par les consommateurs qui éprouvent les difficultés d'aborder les produits dont le coût ne cesse de grimper à Kigali. La crise économique se fait sentir partout et moi-même, je ne fais pas d'exception. Normalement, pendant les fêtes, on souhaite acheter des produits nouveaux. Mais sur le marché, les prix sont très élevés. Le divertissement est un autre aspect qui rythme la vie des Kigalois en fin d'année. Dans ce cadre, divers artistes sont entendus à Kigali, comme le chanteur et compositeur américain célèbre dans la musique sacrée, Travis Green, et le célèbre artiste rwandais, Masamba.
À la fin de l'année, j'aime bien fêter au Rwanda. Passer les Noël, bonne année avec les Rwandais. Quand on regarde que les choses ont augmenté, les prix sont en haut et que le mouvement a beaucoup baissé. Mais quand on regarde quand même et qu'on réfléchit très bien, tout le monde a besoin de s'amuser. S'amuser n'a pas de prix.
Même si les contraintes économiques risquent de nuire à l'ambiance des fêtes de fin d'année à Kigali, les citoyens se réjouissent de clôturer l'année sans aucune restriction sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, contrairement aux deux dernières années. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.